Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous le week-end de 9h à midi en direct, mais également en podcast, mois après mois. Nous battons des records en podcast, donc je sais que vous êtes friands d'aller nous écouter le samedi après-midi, le dimanche après-midi. En tout cas, les deux premières heures sont déjà en ligne. On a parlé du 15 de France à partir de 9h. On s'est demandé si vous étiez emballé par ce 15 de France après ces trois test matchs et notamment la victoire hier face à l'Argentine. On a parlé des adieux de Raphaël Nadal, du Paris Saint-Germain et de cette sortie cette semaine sur RMC de Nasser El Khelaifi. Et puis dans quelques instants, nous allons venir évidemment sur ce 15 de France. Cette tournée a-t-elle fait oublier la tournée catastrophique en Argentine? Et on parlera notamment en termes d'image. 11h30, le débat caché, une séquence magnifique. Vous êtes totalement dans le noir, totalement perdu, vous ne savez pas quel est ce débat. Et pourtant, il va falloir réagir sur l'émotion. D'après vous, c'est quoi le débat caché? Tiens, je fais un petit tour dans les rangs. Julien Beneteau.
J'ai trois pistes.
Ah, bah donne-nous la plus chaude.
Si tu peux m'en filer une, parce que j'en ai aucune, moi.
Bah, j'ai dit la première.
Est-ce qu'on parle de l'héritage, Sarah, des sports, des Jeux Olympiques?
Ça n'intéresse pas.
Ça non, ils sont pas cool, parce qu'il y a les deux heures de bling sport bling en moins, là.
Au collège, non, non, bien sûr.
Au collège,
j'ai tout suivi.
Est-ce que l'éternel débat, est-ce qu'on est vraiment un pays de sport?
Est-ce qu'on veut devenir un pays de sport?
C'est pas un débat caché.
C'est trop pointu, ça.
C'est trop pointu, ouais.
Non, non, il lui faut du bling-bling, il lui faut du
Mbappé, du stade du PSG, un débat sur le nouveau stade du PSG.
Vous savez que je suis là pendant que vous faites la conversation. J'entends tout, j'ai un casque et tout ça. Denis Charvet.
Sur Mbappé.
Oh non.
Parce que tu vas nous prendre à contre-pied.
À contre quoi?
À contre-pied, parce que c'est.
Ah
voilà,
si,
c'est
si,
le jour.
Sur Mbappé.
Mais oui, bien
Didier
sûr.
Didier Deschamps en train de réfléchir à lui enlever le brassard.
C'est ce que je disais, voilà.
Ah, c'est ce que tu disais.
Non, moi j'étais plutôt sur la safety car qu'on veut peut-être mettre dans le vélo, ce qui ferait ralentir. C'est-à-dire qu'on veut ralentir les coureurs cyclistes. On veut maîtriser.
Eh oui, safety car dans le vélo. Belle proposition, ça, ma Sarah.
Christophe qui aurait peut-être un truc sur Longoria, tu sais, qui s'érige justement un modèle opposé à celui du Paris Saint-Germain. Et ça peut être un truc qui t'intéresse.
Ça peut m'exciter.
Ça peut t'inciter.
Ça pas réfléchi.
Réponse dans 20 minutes.
Bon, après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un petit débat golf. Hein.
Ouais.
Non, on n'est pas à l'abri de ça.
On en parle cette semaine. Je suis un peu déçu sur Jalibert quand même.
Ok les copains, Antoine Renaud s'est qualifié sur le PGA Tour, un excellent podcast, le Practice RMC en parle justement, mais peut-être que nous aussi nous allons en parler à 11h30. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Michel de Montaigne, qui a dit un jour, qui songe à oublier, se souvient.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Une vidéo sur les réseaux sociaux a été diffusée avec Melvin Jaminet pour seul protagoniste. L'international français y tient des propos à caractère raciste.
L'arrestation en Argentine de deux joueurs de l'équipe de France de rugby.
Ils sont tous les deux accusés de viol. Le parquet de Mendoza, la ville où auraient eu lieu les faits, a décidé de les inculper.
C'est terminé ! Victoire de l'équipe de France pour ce premier test face au Japon 52-12. C'est terminé ! La France t'emporte 30-29.
Quel
point des Français. 15e victoire dans l'histoire des Bleus face aux All Blacks. C'est terminé. Victoire de l'équipe de France 37-23. Le bilan est très positif avec ces trois victoires en tant que match à l'automne.
Trois matchs, trois victoires. Le 15 de France pouvait difficilement rêver mieux pour cette tournée d'automne. Les Bleus se sont offerts. Les Japonais, les Néo-Zélandais, les Argentins, hier soir. Trois rencontres convaincantes après une année 2024 difficile, vous le savez bien, un tournoi destination raté, une tournée en Argentine catastrophique en termes d'image. La musique qui fout les jetons. Et cette question, cette tournée a-t-elle fait oublier la tournée en Argentine? Oui ou non? Christophe Cessieux.
En grande partie.
En grande partie. Sarah Pitkowski.
Non, jamais. Ça restera toujours une cicatrice.
Denis Charvet.
Oui.
Julien Beneteau.
Non, il ne faut pas.
Il y a deux noms, deux oui. Il y a les tennismans qui vont affronter les rugbymans dans quelques instants dans les grandes gueules du sport.
Non, mais eux, ils veulent nous saquer.
Bah Christophe est rugbyman, non? Okay. Oui, bah,
non, non, il est skieur.
Oh, non, je suis rien du tout.
Il est cycliste aussi. Cycliste, skieur.
Avant de débattre.
Je suis pas golfeur, ça c'est sûr.
C'est quand même l'une des voix du rugby sur RMC, les copains. Oui. Un peu de respect. Avant de débattre, on va retrouver notre commentateur sur RMC, c'est Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Il est arrivé à Toulouse.
Le dernier.
Il est parti hier soir du Stade de France en stop et il est donc arrivé à Toulouse ce matin. C'est bien.
Alors, mon cher Wilfried, qu'en pensent les Bleus? Est-ce que tout est oublié?
Bah écoute, 3 matchs, 3 victoires, tu l'as dit, un succès de prestige sur les All Blacks, un autre plein d'autorité contre les Argentins hier soir, rien à redire quasiment sur le sportif, mais le sélectionneur Fabien Galthié sort de cette tournée renforcée, hein, en plus on va dire, hein, par sa méthode et ses résultats, et lui ne voulait pas oublier ce qui s'était passé avant.
Non, la tournée en Argentine, elle fait partie aussi de notre histoire. Malheureusement, après, il a fallu jouer au rugby avec ce qui nous était arrivé. Donc, c'était très, très particulier. Mais ça fait partie du chemin aussi de notre équipe.
Il n'en a pas dit beaucoup plus hein, du côté des joueurs. Il a fallu aller voir du côté des joueurs. Un homme pouvait particulièrement témoigner de ce contexte. Bah, c'est l'arrière du Stade français, Léo Barré, qui lui, tout comme Emilien Gailleton, était de la tournée en Argentine et de celle de novembre. Et il parle du bienfait de ces matchs de l'automne après le cauchemar de l'été.
En tout cas, la tournée en entière va, je pense, boucler la boucle, on va dire, avec ce qui s'est passé cet été, je pense, médiatiquement. Je pense qu'on a su répondre présent sur le terrain et redonner un peu d'amour autour du rugby. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de véhiculer aujourd'hui et qui n'est pas représentatif de cet été. Donc voilà, sincèrement, on n'en a pas parlé à l'intérieur du groupe, on n'en a pas parlé avec le staff. Voilà, on est vraiment focus sur les matchs et prendre du plaisir.
Enfin, il faut souligner aussi que cette tournée de novembre est un succès populaire, avec précisément, on nous l'a donné hier soir, 193 260 spectateurs au total au Stade de France. 3 week-ends de suite, on a même battu le record d'affluence pour une tournée d'automne, avec à la sortie et sur le sujet de l'image des Bleus, des supporters unanimes.
Sûr que les victoires, forcément, ça va un peu effacer tout le reste, parce que les gens vont retenir sur tout ça.
Moi, la France me fait pleurer comme toutes les rencontres, en fait. La France me rend fier, en fait. C'est magnifique.
Il y a l'extra sportif qui a pris un rôle important. Il y a des gens qui ont douté de l'équipe de France, de son intégrité. Mais finalement, avec ce groupe, on voit que voilà, les gars, ils sont concentrés sur le sport. Ils sont là pour jouer. Ils sont pas là pour faire des histoires hors du terrain. Et finalement, ouais, ça permet d'oublier en fait les quelques sorties extra sportives, on va dire.
Même si ces événements ont remarqué l'année 2024, on a l'impression que le rugby français veut tourner la page. Chacun jugera de la trace que tout ça aura laissé avec, excusez du peu, un dernier épisode hein, qui a son importance lundi. Lundi prochain, l'audience d'examen de non-lieu en Argentine, on saura si oui ou non il y a abandon de charge pour Hugo Radou et Oscar Jégou.
Merci beaucoup Wilfried Templier pour ce reportage auprès de notre équipe de France hier soir. Évidemment, tu restes avec nous pour cette question, pour ce débat. Cette tournée a-t-elle fait oublier la tournée en Argentine, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Deux noms, deux oui, les deux noms pour les tennismen. On va commencer avec Sarah Pitkovski, pourquoi non?
Parce que cette tournée en Amérique du Sud qui a été initiée, je crois, en 2012, sur le plan sportif, elle 2012. A... Elle, ouais, je crois, hein, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Ça a commencé en 2012. Et, bah, alors pendant les
bien
années
avant,
Covid,
mais c'est pas grave.
Bien avant.
Oui. Moi, j'ai joué là-bas, donc.
Non, bah, c'était il y a
pas
avant,
en 2012. Alors, c'était bien avant.
C'était en 1972.
Elle a vocation à faire des tests matchs et puis à faire jouer aussi d'autres joueurs, pas nécessairement des titulaires. Mais si on sort du cadre sportif, je pense que ce qui s'est passé avec cette équipe de France et les dérives, ça a quand même rempli tous les faits divers. On est sorti du cadre du sport. Et aujourd'hui, même les gens qui ne suivent pas le rugby, qui ne suivent pas l'équipe de France, ils ont entendu parler de ces affaires en Amérique du Sud. Ça reste, et j'en suis désolée, une cicatrice pour le rugby français. Il y a un avant et il y aura un après. Déjà, l'après, il est très clair. C'est-à-dire que la fédération a dû mettre en place une nouvelle charte d'éthique et de déontologie pour encadrer au mieux cette équipe de France. Mais pas que les équipes de France qui sont seniors. C'est-à-dire que cette charte, elle va descendre à tous les niveaux. Il y a les langues se sont déliées sur les dérives des joueurs de rugby. On a parlé des burn-out des joueurs de rugby. Il y a même les filles du rugby qui ont parlé de sexisme dans le sport. Donc ça a ouvert la boîte de Pandore, et qu'avant tout restait peut-être entre rugby mal, entre fédération, donc entre la fédération. Et aujourd'hui, oui, on a appris des choses, ça a ouvert des choses et des décisions ont été prises. Et je pense que ça va aussi dans le bon sens. Après, cette équipe de France bénéficie d'une cote d'amour et de popularité qui est assez pas incompréhensible, mais on a une affection pour nos joueurs de rugby français. qu'on n'a peut-être pas pour les joueurs de foot, où à la moindre petite incardade, on est capable d'avoir une désaffection, alors qu'au rugby, même s'ils n'avaient pas gagné, s'ils avaient perdu contre la Nouvelle-Zélande, ce Stade de France était plein. Donc en fait, j'y vois pas un mal sur le fait qu'on n'oublie pas et que ça laisse une trace, certes négative, mais il y a des décisions qui ont été prises. Et mine de rien, ça n'enlève rien à cette cote d'amour qu'on peut avoir pour cette équipe de France.
Ok, Christophe, Denis, qui veut réagir? Qui veut répondre
non,
à ça?
Non, mais écoute, il suffit d'aller dans les stades, on y va avec Christophe, pour voir la cote d'amour dont tu parles. C'est absolument impressionnant. Donc c'est en ça que je me dis aussi que les gens n'ont pas fait l'amalgame entre le sportif et l'extra-sportif, qu'ils n'ont pas tout mélangé, et à raison, je le pense, dans la mesure en plus où les joueurs sont présumés innocents, donc attendons le verdict lundi, j'espère qu'il va tomber lundi. Mais il y a aussi
le problème.
Il va y avoir un non-lieu pour les charges qui pèsent contre elles. Mais
je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne forme pas les joueurs. Là,
dans leur comportement.
Je dis juste que le grand public n'a pas fait l'amalgame. Quand tu vois le résultat des audiences qui sont colossales, ne serait-ce que par rapport au foot, en plus, je veux dire.
Mais c'est plus de 7,5 millions de téléspectateurs.
Tu te dis que le grand public, ils n'en ont rien à faire. Mais je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne juge pas. Je te dis qu'ils ne font pas l'amalgame.
Pour toi, parce que tu vas au stade et que tu encourages l'équipe de France, tu as forcément rien à faire de ce qui s'est passé.
Il y a plusieurs populations, ça n'a rien à voir avec le football.
Mais tu penses qu'ils n'en ont rien à faire de ce qui s'est passé?
Non, ils font pas l'amalgame.
Les gens, c'est la manière dont ça a été géré aussi les instances.
Mais
a été plutôt bien géré.
Ça a été bien peut-être
bien géré.
En tout cas, ça a été bien géré.
En tout cas, Sarah, quand tu vas dans les stades aujourd'hui, on va dans les stades, personne nous parle de ça. Je dis pas que c'est bien, attention, je juge pas, hein. Je dis juste que c'est pour parler de répondre au débat.
Effectivement, là, pendant 3 semaines, les 3 matchs au Stade de France, personne n'a parlé,
n'évoquait quoi que ce soit. Et au contraire, je veux dire.
J'ai discuté un peu avec des supporters ou avec d'anciens joueurs.
Parce qu'il y a des décisions rapides qui ont été prises.
Là où tu as raison, c'est qu'il y a une cote d'amour qui est assez parfois peut-être incompréhensible, je sais pas, mais c'est vrai que elle jouit d'une cote d'amour absolument incroyable. Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est l'état d'esprit?
On n'est pas champion du monde au rugby, donc
c'est ce qu'elle envoie, cette équipe, peut-être aussi. C'est peut-être aussi le fait qu'elle soit généreuse, que je sais pas, et puis le rugby, c'est pas, comme le dit très bien Christophe, c'est pas le même public que le foot, hein.
Et puis il y a l'incarnation de l'équipe est différente aussi.
Aussi. Avec Dupont, avec Ramos.
Julien.
Le capitaine sur cette tournée, c'est Antoine Dupont. Antoine Dupont, aujourd'hui,
il est irréprochable.
Il marche sur l'eau, sur le terrain, en dehors du terrain.
Il
coche toutes les cases.
C'est Superman.
Il ne faut pas l'oublier. Ça ne l'efface pas. Il ne faut pas oublier, moi, je pense. Parce que, comme l'a dit Sarah, et c'est les mots du président Florian Grill, il y aura un avant et un après. Que cette tournée en Argentine a été peut-être la conséquence de quelques dérives de certains qui nuisaient à l'image sur certains comportements, parce qu'on a appris suite à ça que pendant la Coupe du Monde, pendant les matchs, pendant la préparation, certains joueurs...
Mais depuis 50 ans, ça existe depuis 50 ans, cette histoire-là.
Ça n'avait pas été
révélé au grand public.
Et que les dérives
étaient un peu cachées. Il y a eu des dérives tout le temps. Denis pourrait nous raconter plein d'histoires.
Ça fait partie de leur histoire.
Ça fait partie de l'ADN.
Quand en 2011, en Nouvelle-Zélande, ils sont au fond de la soute et que justement, ils sont ensemble dans leur salon où ils se disent les 4 vérités et apparemment, ils en prennent une bonne. Moi, ça me dérange pas parce qu'ils sont entre eux, etc. Ce qui est problématique, c'est les comportements qu'il y a derrière, dus à l'excès d'alcool ou les propos de Melvin Jaminet, parce qu'on parle que de la tournée argentine. Ça, c'est problématique. Mais, comme l'a dit Fabien Galthié, ça fait partie de leur histoire maintenant. Ils ont géré, et je trouve qu'ils ont pas mal géré du tout. Vraiment. Que ce soit le staff technique, les dirigeants, les présidents. Et après, je pense qu'aujourd'hui, avec le retour des joueurs premium, des cadres et du capitaine, je pense que voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire et où ils vont.
Tu as dit un truc, Julien, je pense qu'on oublie quand même le succès colossal des JO à 7, c'est pas du 15, mais avec Dupont, le 7, ça redonnait.
Ça a fait beaucoup de bien aussi au Cœur de France.
Je pense que ça fait beaucoup de bien.
Ils étaient obligés de toute manière de donner une image lisse, propre, une image d'équipe qui gagne avec des garçons motivés, recentrer les les débats sur le sportif, justement, ça a été bien géré parce qu'ils ont évacué cette histoire avec la charte, on sort pas, on boit pas, on fait pas la fête. Ils ont parfaitement géré cette tournée de novembre de ce côté-là. Sportivement, c'est une réussite totale.
En fait, et au niveau de l'image, inverse, c'est-à-dire que s'ils vont gagner à Dublin contre l'Irlande le samedi à 18h. Mais qu'ils aillent boire des bières ensemble jusqu'à minuit ou 2h du matin et qu'il n'y a aucun débordement, ça fait partie du rugby et ça fait même partie du sport. C'est pas que le rugby.
Oui, mais on est obligé de frapper un grand coup pour ensuite lâcher un peu de l'aise.
Ils sont capables. Enfin, je veux dire, il faut être capable, il ne faut pas les enfermer à l'hôtel, etc. Il faut qu'ils soient juste capables d'être raisonnables.
J'ai une question pour Denis.
D'être ensemble, ça fait partie de leur histoire aussi.
J'ai une question pour Denis. Puisqu'on le dit, cette tournée du mois de juillet, c'est pas les titulaires de l'équipe de France, puisque sur les 42 joueurs qui ont été appelés, 22, en tout cas quasiment la moitié, n'avaient aucune sélection en équipe de France. Donc peut-être pas encore les codes, peut-être que ce manque d'encadrement ou cette autonomie qui fonctionne avec l'équipe première parce qu'ils ont l'habitude. Ouais. Est-ce que ces jeunes joueurs
aussi sont bourrés la gueule?
Laisse-moi terminer. Il y avait 22 joueurs qui avaient zéro sélection. En plus de ça, sur le plan sportif, on le disait, il n'y avait aucun des joueurs qui était en finale du top 14 parce qu'ils avaient besoin de repos. Donc il est allé piocher dans les demi-finalistes, c'était des joueurs qui sont peut-être pas les premiers choix. Est-ce que ça a favorisé? Et le fait, et Florian Grill est venu nous le dire ici, l'encadrement sur les dernières années a commencé à diminuer parce qu'on était dans l'autoconfiance et dans l'autonomie des joueurs. Est-ce que ça a favorisé cette dérive? Et au final, la conclusion, est-ce que c'est pas un mal pour un bien?
Oui, c'est un mal pour un bien. Sûrement, tu as raison. Moi, j'étais manager des Barbarians depuis des années. On est passé près de la catastrophe très souvent. C'est difficile de le gérer, d'encadrer. Tu passes à côté des
drames. C'est toi qui fais le chapeau le soir.
Le problème, c'est que tu peux faire des discours aux joueurs. Tu peux faire les plus beaux discours aux joueurs. Les joueurs sont des hommes quand ils partent à l'étranger. C'est des chiens fous qui découvrent un autre univers. Non, mais c'est la vérité. En plus, en meute. Donc, c'est très difficile. Moi, je vais vous faire les plus gros discours. Il est arrivé des semi-catastrophes. Donc, je ne vais pas juger ce qui s'est passé en Argentine. Et je n'en suis pas étonné, même. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'était des joueurs qui n'étaient pas habitués à vivre ces moments-là, dans une euphorie particulière, loin de chez soi, à des milliers de kilomètres.
Fin de saison.
Et que peut-être qu'il y avait des joueurs comme Dupont, mieux encadrés, avec des référents. Je pense qu'on aurait pu peut-être éviter ça, mais je ne suis pas sûr.
Apparemment, en Argentine, pardon, vous le faites. Baptiste Serin, qui était capitaine de la tournée.
Oui, il a été très bon en tant que capitaine.
Il est irréprochable, etc. Il leur a dit certaines choses.
Oui, il leur a dit, il les a prévenus. Oui, bien sûr, il les a mis en garde.
Surtout pour le dernier test. Il y a quand même
ça devait arriver un jour. C'est un électrochoc. Il faut que le rugby se regarde dans la glace. Vous n'avez pas été toujours d'accord dans les dernières émissions, Denis, Christophe, sur les problèmes qu'a le rugby. Mais moi, je suis désolé. Je pense que le rugby a des problèmes. Il faut se regarder
dans
la glace.
Bien sûr. Mais évidemment.
Parce que
on n'a pas dit que le rugby.
Non, mais je me souviens. Non, mais c'est surtout que il y a une certaine culture dans le rugby et faut pas l'ignorer. Et que maintenant, il y a, comme il a dit, un avant et un après. Et attention, hein, parce que il y a des grenoblois qui vont être en cour d'assises bientôt sur une histoire à Bordeaux. Hein. Donc il faut pas mettre les choses sous le tapis. Vous l'avez dit, le président Florian Grill l'a fait. Il a pas mis les choses sous le tapis. Et il y a des choses. Voilà, qui ne doivent plus arriver.
Oui, ça, je suis complètement d'accord. T'as employé un mot qu'il faut, c'est électrochoc. Je crois que l'électrochoc va faire du bien à tout le monde, du bien aux joueurs.
Est-ce qu'il va toucher, est-ce que tout le rugby français va être sentir concerné? Je pense que l'équipe de France.
Parce que le rugby amateur est concerné aussi.
Je serais malheureux qu'aujourd'hui le monde du rugby ne soit pas concerné. Je suis désolé.
En tout cas, il faut que ça commence par en haut, peut-être pour sensibiliser un peu plus bas. On peut l'espérer, en tout cas, on en a suffisamment parlé dans cette émission. Nous aussi, je pense que sur cette affaire, on va à un moment donné tourner la page, mais c'est important de faire ce débat. Rally nous appelle au 32-16. Bonjour Rally.
Bonjour Christophe, bonjour équipe.
Merci d'être avec nous. Alors tu en penses quoi? Est-ce que la page est... ça y est, totalement tournée?
Oui, moi pour moi oui, bien sûr. C'est quand même, ça reste une cicatrice, je suis d'accord avec Sarah. On n'est pas habitué avec le rugby, on prône souvent les valeurs. C'est vrai que là, il faudrait que ce soit plutôt encadré, tout supprimer à troisième mi-temps, non, parce que ça fait partie des traditions. En revanche, l'encadrer, oui, pourquoi pas. Après, certes, il y aura une cicatrice. Mais il ne faut pas que ça entache, ça peut entacher pour moi l'image du 15 de France. Quand on voit les trois résultats, et comme vous l'avez dit, le débat, l'amour qu'il y a pour le rugby, vous avez vu le Stade de France hier, c'est extraordinaire. Ouais. Trois victoires avec des joueurs avec autant de talent. Après, voilà ce qui s'est passé en Argentine. Bon, voilà, ça reste à l'Argentine, on va dire.
Ça a traversé bien l'Atlantique quand même.
Oui, d'accord. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que Florian Grill a quand même appris de suite les devants. De suite, il a mis le pour éviter que ça prenne de l'ampleur. Mmh. Et bon, vous voyez, ça n'a pas pris autant d'ampleur que ça. On n'a pas trop entendu parler dans la presse, mais aussi là lundi, on verra ce qu'il en est au niveau de la justice. Quoi qu'il arrive, il sera quand même passé cette histoire. Ça restera dans l'histoire du 15 de France, mais ça n'entachera pas, l'image pour moi du 15 de France. Surtout qu'avec ces trois derniers matchs, ils ont prouvé que, voilà, qu'au niveau du sportif, on peut avoir des résultats. Fabien Galthié fait un énorme travail. On est en train d'émerger des jeunes joueurs, Lubiel Barré, Gaëtan. Enfin, c'est vraiment, on a de très très bons joueurs. Et je crois que voilà, faut pas tout mélanger. Voilà, certes. Une petite,
pour toi, Rally, c'est pas grave ce qui s'est passé en Argentine l'été dernier, j'ai l'impression quand même.
Alors, c'est pas que c'est pas grave. Pour l'instant, ils sont présumés innocents. Oui. On a entendu de tout et de rien. C'est-à-dire, oui, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit au départ de mon discours, c'est qu'il faut encadrer les sorties. Parce que là, ils sont sortis aller boire des bières jusqu'à.
C'est compliqué d'encadrer une sortie, tu sais, avec 40 joueurs, c'était compliqué quand même.
Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ce sont des joueurs professionnels. Ils ont une image. Ils portent un maillot d'équipe du 15 de France.
Ils ont une image. Ils seront certainement innocents et peut-être qu'il s'est rien passé. Mais rien que quand on voit la vidéo de vidéosurveillance de l'hôtel et que l'autre il baisse son froc dans le couloir, rien que ça, voilà, c'est des comportements qui peuvent plus exister aujourd'hui quand tu représentes l'équipe de France.
Ok, c'est dit. On en a suffisamment débattu dans cette émission. Merci Rally d'être venu au 32-16 pour évidemment apporter ton avis à ce débat. Merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir été avec nous. Salut. On se retrouve avec le top 14, hein, avec les Toulouse.
Cet
après-midi.
Oui, oui.
Dans le multiplex avec Christophe.
S'il s'endort pas d'ici là.
Cet après-midi, mon cher.
Je tiens à féliciter là, Pierre Thévenet, Wilfried, qui ont bossé jusqu'à 3h du matin, qui sont levés à 6h30, qui ont pris l'avion et qui cet après-midi seront au micro.
Bravo.
Dans le multiplex. Ah, bravo les garçons. Voilà.
Bravo, même pas de troisième mi-temps. On écoutera du coup.
Et il n'y a pas eu troisième mi-temps hier soir.
Je termine ce débat juste en vous donnant. Pas du tout, jamais. En terminant avec ce chiffre, 6,7 millions de téléspectateurs hier en France-Argentine. Bah ouais. C'était 7,9 millions un samedi soir pour France-Nouvelle-Zélande, évidemment. Et puis, il y a eu beaucoup de comparaisons avec le foot. C'était 5,1 millions pour France-Italie dimanche soir dernier. Et donc, 6,7 pour ce France-Argentine.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34, de retour dans les grandes gueules du sport. Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous composez le 32-16. Beaucoup de débats dans cette émission depuis ce matin, 9h. Si vous voulez réagir, si vous voulez affronter une GG, un seul mot d'ordre, le 32-16. Mais tout de suite, le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, celui-ci, je l'adore. Vraiment, j'adore ce débat caché parce que forcément, ça va vous faire réagir. Forcément, ça va vous procurer quelque chose. Christophe a un doute. Je le vois, ça mou. Mais ne fais pas la moue. Faisons l'amour. Car le débat caché du jour, c'est ça.
Ça rime, c'est tout. C'est fantastique.
Le coup franc à suivre pour l'équipe de France. Florent Malouda dans la surface de réparation. C'est frappé. Ce ballon, ça tombe. Henri. Et le but. L'équipe de France est bien partie pour aller à la Coupe du Monde. Alors que les Irlandais sont en train de se plaindre d'une main. Thierry Henry au deuxième poteau qui récupère la balle, qui la met intelligemment sur William Gallas.
Les Irlandais réclament une main demain, mais on s'en fout. On s'en fout.
Et oui, on s'en fout parce qu'on va aller au Mondial 2010 hein, pour un résultat moins probant, c'est vrai. Mais on y était quand même. Quel moment de l'histoire de l'équipe de France. Alors pourquoi ce débat caché cette semaine
de ce qu'elle est
l'accroche. Mais nous avons célébré les 15 ans de la main de Thierry Henry cette semaine. 15 ans de cette main qui a tant fait parler. Une main qui avait provoqué une énorme polémique en Irlande, évidemment. Mais aussi en France. Thierry Henry, accusé de tricheur dans son propre pays. Mais GG, 15 ans après, est-ce que la France a été injuste avec Thierry Henry ? Oui ou non? 15 ans après.
C'est ça ton débat. Ouais.
Mais c'est super comme débat caché, ouais, les copains. Vous proposez quoi? On va faire les deux heures de sport, super.
Pourquoi elle était très injuste avec lui?
Il a quand même été un peu jeté en pâture, il était un peu seul. Il a quand même pris des leçons. Exactement, il a pris des leçons.
Le sélectionneur et le président de l'époque ont très mal réagi par rapport à Florian Grill et ce qui s'est passé cet été, voilà.
Dans une autre mesure, parce que là on parle de sportif, mais Thierry Henry, il a été jeté en voiture, il était tout seul à se défendre sur ce coup-là. Ça, je m'en souviens très bien.
Il a triché.
Mais okay. s'il avait dit que le problème, c'est qu'il a jamais reconnu le vrai problème de Thierry Henry à cette époque-là, c'est qu'il a jamais reconnu très peu. Après, ultérieurement, mais pas le soir même.
Sur le moment, il n'a pas reconnu.
Moi, je me suis il a dit qu'il l'avait un peu touché de la main.
Pas le soir même.
Ah, si, je te promets. En zone mixte, le soir même, il le dit.
Est-ce qu'on appelle ça?
Il dit quoi? Il le dit. Enfin, il le dit qu'il a touché un petit peu de la main. Oui, c'est un peu aidé, oui.
Voilà. Bah, il y en a un autre qui a touché de la main, il s'appelle Maradona. Hein.
Oui, mais pourtant, lui, il a dit c'est Dieu, lui.
Oui, c'est la main de Dieu.
Le contexte, c'est un autre pays, c'est une autre culture.
Ouais.
Et ils en ont glorifié et ils l'ont mis sur un piédestal. Mm-hmm. Parce que, voilà, il faut prendre en compte plein de choses.
Juste après le match, il avait avoué avoir fait une main, mais affirmé qu'il n'était pas l'arbitre. Voilà ce que je
veux dire. Non, mais le problème qui s'est passé avec Henry, maintenant, je me souviens bien, c'est qu'il a réconforté quand même les adversaires.
Ça, c'est vrai.
Mais c'est pas, je me
après
souviens
le match,
parce
qu'il avait réconforté les Irlandais.
Vous parlez de la main, mais c'est pas la main le problème. C'est qu'il allait réconforter les mecs qu'il a tués.
Le problème, c'est ce que dit Christophe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait une faute, si elle n'est pas sanctionnée, mais nous, on joue l'arbitre au tennis.
Il y a un moment,
je vais pas rendre un point.
Moi, je veux bien qu'on fasse l'histoire, mais à l'époque, en France,
qualification.
Au tout début, tous très heureux de la qualification, et puis après, tous, oh là là, c'est pas bien, on a triché, regardez ce qu'a fait Thierry Henry.
On est donneurs de leçons de quoi? Enfin,
il y a beaucoup de politiques qui s'en sont mêlés, etc.
Ben oui.
Parce que je pense qu'à l'époque, le président et le sélectionneur n'ont pas fait le job. Et c'était annonciateur de la catastrophe qui allait se passer en
Afrique du Sud, aussi. À Naïsna.
Voilà. Ouais, ça aurait évité Naïsna.
Mais bon. Non, mais j'aime bien la phrase que t'as ressortie, Christophe, et il a raison de le dire, Thierry Henry. Il va pas s'auto-flageller, dire, au fait, j'ai fait une main là, vous me sanctionnez pas.
C'est le comportement après, ça.
Mais on s'en fiche, le match est terminé.
Non, je m'en fous pas, moi.
Les rugbyman, tu diminues les troisièmes mi-temps et ce qui se passe alors que le coup de sifflet final est terminé.
Tu vas surtout pas relever les Irlandais, quand même. Je suis désolé. C'est une qualification, c'est pas un match amical.
Ça avait fait un scandale, je me rappelle.
Mais oui,
en Irlande, c'était devenu une affaire d'État. Ils voulaient presque rappeler l'ambassadeur d'Irlande en France.
Mais ça dépasse.
Dans la presse irlandaise, on avait été taxé de tricheur. C'est vrai que ça avait pris une ampleur considérable. Mais ça aurait été mieux qu'on puisse se remémorer un peu ce qui s'était passé. Parce que là, c'est un peu vieux quand même, 15 ans.
Moi, je suis un peu à la mémoire.
Ça commence un peu à partir en brillant.
C'est encore tout frais. Et c'est vrai que ce qu'il y avait.
C'est donc une.
On pourrait aussi revenir, pourquoi pas, sur l'arbitre Monsieur Foot qui siffle un pénalty contre l'équipe de France pour la qualification à la Coupe du Monde 78. Ça, est-ce que ça peut être un scandale avec Thierry Roland qui traite l'arbitre de salaud? Revenons sur ces grandes histoires. Moi, je vous le dis.
Quand on a vu
avant.
Oui, mais c'est vrai.
Tu t'en rappelles pas de ça?
Si, je m'en souviens très bien. Je t'avais écouté. Tu présentais déjà les grandes gueules du sport. C'est bien si je m'en souviens bien.
C'est n'existait pas. C'était Radio Monte Carlo.
Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable avec cette main? Est-ce que la France est capable de dire, peu importe. Non mais les copains, écoutez-moi. Est-ce que on est capable de se dire, peu importe maintenant comment on gagne, on a eu cette main. Beaucoup de gens sont tombés sur Thierry Henry pour avoir triché. Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de voir l'histoire différemment et de se dire, on a gagné, l'arbitre l'a pas vu, tant pis quoi. Et je parle pas du VAR, hein, parce que forcément aujourd'hui cette main ne pourrait pas avoir lieu. Mais est-ce que maintenant on a une mentalité un peu différente? Parce qu'en Argentine, la main de Dieu, il y a aucun problème. Maradona n'était pas un tricheur. Hein.
Ouais, mais il y avait un contexte différent avec les Anglais.
Sortait de la guerre des Malouines.
Ouais.
Je sais pas, c'est des faits de jeu, en fait.
Ouais, c'est.
C'est des faits de jeu.
Ça se fait sous l'espace de quelques instants. Enfin, je veux dire, c'est pas. On a arrêté le jeu. On a revu la vidéo et il y a de l'interprétation. Enfin, je veux dire, ça a été l'arbitrage qui a été fait de manière spontanée. Et sur le moment, donc, enfin, moi, je.
Mais il y a des exemples quand même de grands sportifs. Jusqu'en rugby, il y avait un Néo-Zélandais un jour qui est allé voir l'arbitre en disant, j'ai pas aplati. Et je parle, il y a 20 ans, hein, et qui a dit, l'essai n'est pas bon. Il avait été refusé. Donc ça dépend aussi de la personnalité de l'individu. Je suis désolé. Peux-tu bien penser que Thierry Henry, il va voir l'arbitre, il dit j'ai fait une main.
Est-ce que vous pensez qu'il l'a payé en termes d'affection, en termes d'image et du public français? Parce que Il est quand même Thierry Henry. Il est clivant.
Ouais, mais c'est lui qui est comme ça.
Oui, mais est-ce que ça,
ce fait-là,
oui, mais est-ce que ça, ça a accentué?
Il a adoré. Parce que derrière, il continue à jouer Arsenal. Il est consultant chez dans une grande chaîne anglaise. Il est adoré, il est adulé.
Mais il portait le maillot de l'équipe de France, tu vois. Est-ce que ce fait-là a pu avoir une incidence sur sa notoriété en France?
Immédiatement.
Il n'a pas été accepté facilement en tant qu'entraîneur en France.
Je me souviens, en Espagne, il jouait à ce moment-là au FC Barcelone. Le match après, il entre sur la pelouse du Camp Nou, son propre stade, et il se fait siffler par le public. Des marques qui avaient un temps envisagé de se séparer de lui par rapport à l'image de tricheur que ça pouvait véhiculer.
Le problème après, ça a été c'est la communication autour de cet événement. C'est à lui, on se souvient plus, mais s'il avait communiqué différemment avec l'appui de la fédération, du président et du sélectionneur, je pense que ça aurait été.
C'était retrouvé un peu tout seul.
Mais il était tout seul. Oui.
Dans un autre pays, il aurait été vu comme le sauveur.
Oui, mais c'est pas la mentalité française.
Il aurait été vu comme le sauveur.
C'est ce que je t'ai dit.
Et nous, on est très donneurs de leçons, hein.
Oui.
On est très donneurs de leçons, donc oui, forcément. Au début, on est tous contents parce qu'on est qualifiés. Et puis après, on a une forme de remords. Mais entre-temps, c'est nous qui sommes partis à la Coupe du Monde. Voilà.
Et on se souvient du destin malheureusement.
Et comme quoi, le sport fait bien les choses. Voilà.
Exactement. Bah voilà.
On a été punis.
Et c'est pas mal pour un bien.
Ok, très bien les copains. Bon, sachez que dans 5 ans, dans les grandes gueules du sport, on fêtera les 20 ans de la main de Thierry Henry. Je vous reproposerai.
Il sera là le mieux.
Très bien qu'on aille revoir les images et qu'on aille relire les articles.
Si Christophe sera là.
Dans 20 ans ?
Non, dans 5 ans.
Dans 5 ans.
C'est limite. Hein.
J'espère. Moi, je me calque sur Denis. Mais bon,
j'espère, mais quel faux cul.
Non, tu m'as pas laissé terminer. J'espère que je ne serai plus là.
Ah, oui.
11h43, on se retrouve dans quelques instants.
Journal de TF1. Récupérer la place, ça rentre à revenir.
Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour, vous venez lui dire en face. À tout de suite sur RMC, on vous attend.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, de retour dans les grandes gueules du sport avec Sarah Pitkowski, Julien Beneteau, Denis Charvet, Christophe Cessieux ce matin à partir de midi. Restez bien avec nous. La Dream Team des Paris sera là au rendez-vous pour vous parler des matchs de Ligue 1, notamment, mais également de Top 14. On débutera avec Lens-Marseille cet après-midi. Ce sera à vivre sur RMC. On vous donnera toutes les meilleures cotes, évidemment. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC. Les grandes gueules du sport et vous.
Philippe nous appelle au 32-16. Bonjour Philippe.
Salut Jean-Christophe, salut l'équipe.
Merci d'être avec nous, mon cher Philippe. Allez, tu vas affronter qui ce matin?
On dira bonjour en fonction de qui tu vas solliciter.
L'ancêtre.
Je vais m'attaquer à Christophe.
Je le savais. On a le sujet. Quel est le sujet, Philippe?
Sur les légendes.
Peut-elle réussir sa sortie? Écoutez ce que disait Christophe Cessieux.
Le problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir une dernière danse fabuleuse et qu'ils vont rester toujours au sommet de ce qu'ils sont. Et ils sont toujours poussés à aller jusqu'au bout, faire le comeback de trop. Il y en a tellement qui ont fait le comeback de trop.
Christophe, Philippe, Christophe est à toi.
Ouais, vas-y, viens Philippe. Vas-y. Vas-y, mets les gants là.
Alors, il y a Sarah qui a dit un truc qui était très juste. Alors, je suis souvent d'accord avec Sarah d'ailleurs, mais qui disait qui sommes-nous pour juger du moment où les sportifs doivent arrêter. Franchement, je pense que c'est grandement en lien avec la motivation qu'ils peuvent avoir. Et que chacun a une motivation différente. Le choix de la sortie, il y en a aussi pas mal qui n'ont pas le choix de leur sortie. Hein, si on parle des blessures, si on parle du désir à vouloir encore s'arracher tous les matins pour continuer à être performant. Et moi, ça m'a posé d'ailleurs une autre question de la reconversion. Je pense que c'est très lié peut-être à l'absence de reconversion qui sont proposées au sportif qui fait que cette sortie, elle est très compliquée.
Pour, les légendes, Philippe, ont souvent quand même des propositions derrière.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dépressifs
derrière. Nadal, bien sûr.
Mais je pense que
Nadal, il a déjà un projet bien en place, il a déjà ses entreprises. Quand t'es une légende, c'est plus facile, évidemment.
Oui, mais c'est plus juste
quand
une histoire
de... Quand t'es un sportif lambda, c'est plus compliqué. Il faut
assurer sa reconversion. Ce qu'il faut aussi... Il faut aussi comprendre, c'est que bien sûr qu'il y a des sportifs qui ont déjà des investissements et qui le pensent avant. Mais Nadal, c'était un fou de tennis, un passionné de tennis. Ouais. Il aimait jouer, il aimait le jeu. Donc en fait, il le disait.
Mais il paraît qu'il aime autant le golf que le tennis.
Et ben, il se met au golf.
J'ai les euros au golf.
Ouais.
Le scratch.
Oui. Mais ce que je veux dire, tu peux aussi être en amour pour ton sport et avoir envie de continuer parce que les émotions que ça procure, elles sont au-dessus de tout.
Je ne juge pas la sortie des uns et des autres. Je dis juste qu'il y en a certains qui ont fait une sortie par le haut et d'autres un peu moins par le haut. Mais après, chacun fait comme il peut, hein, Philippe.
Exactement. Chacun fait comme il peut.
Philippe.
C'est vrai que j'ai élargi le débat au-delà des légendes. Mais c'est vrai que les légendes ont peu importe leur sortie. Je pensais je repensais à Blanco, à Maradona, à Pelé, et je me dis 20 ans après, de toute façon, est-ce qu'on se souvient réellement de leur sortie?
Tu as totalement raison. C'est-à-dire que dans 5 ans, et même tout de suite, on se souvient de Nadal et de tout ce qu'il a fait plutôt que sa sortie. Mais en revanche, c'est une vraie question, et c'est pour ça qu'on voulait faire ce débat dans les grandes gueules du sport. C'est une vraie question pour le sportif en question, à savoir quand je m'arrête, quand je continue. Ça, forcément, les sportifs de haut niveau et qui plus est les légendes se posent la question parce qu'ils veulent laisser une empreinte différente.
Oui, et puis c'est la peur d'arrêter aussi. C'est la peur de plus être, d'abandonner sa première carapace, je veux dire, et puis de se réincarner. Ouais. Il y a plein de.
Après moi, il y a un autre truc qui m'a pas choqué, mais sur la sortie de Nadal et la sortie des grands champions, c'est qu'on a l'impression qu'on assiste à leurs obsèques quand même.
Surtout avec Federer.
C'est hallucinant. Les gens en pleurent. Les discours des uns et des autres, il a été fabuleux, le mec est rayé, quoi. Il n'existe plus, on le met dans une petite caisse, et ça m'a un peu choqué l'autre jour. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi,
mais c'est
un vocabulaire d'obsèques.
Oui, la fin de carrière,
les psychologues associent la fin de carrière à des mots mortuaires.
Oui, mortuaires.
C'est loin d'être anodin. Ouais. Si c'est utilisé depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a une bonne raison.
Rends-toi compte quand tu arrêteras les grandes gueules du sport, ce qu'on sera capable de faire.
Voilà, justement,
résumer ta carrière, c'est incroyable. Cyril nous appelle également au 32-16. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Cyril, bonjour.
Bonjour l'équipe. Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Cyril, tu veux affronter qui?
Moi, c'est Julien.
Julien, sur quel sujet?
Le sujet du PSG, parce que j'avais quelques désaccords et j'entends qu'avec son cœur de Marseillais, il a des...
Le débat, c'était sur les propos de Yasser El Khelaifi qui a dit quoi qu'il arrive, même si on est sorti en Ligue des Champions, Luis Enrique restera. Julien Benneteau, tout à l'heure. Bien.
C'est cohérent par rapport à ce qu'il va leur mettre en place. En revanche, je n'y crois pas et je n'y achète pas pour plusieurs raisons.
C'est paradoxal, ton discours.
Je ne comprends pas.
Mais si.
Pourquoi ils le feraient avec Luis Enrique et pourquoi ils ne l'ont pas fait avec Ancelotti?
Ok, Cyril, Julien est à toi.
Julien, tu n'as pas la réponse, mais en fait, elle est toute simple. Pourtant, c'est qu'Ancelotti, c'est le début du projet. Ils sont tout fous. Comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, on était sur une idée du starisme et des étoiles au Paris. Et aujourd'hui, ils ont bien compris. Ils ont appris avec le temps. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, que autour de jeunes, comme ils ont fait, Désiré Doué, Vitinha, Barcola, j'en passais des mers, même Ramos, l'attaquant qui est tout jeune, eh bien, faut garder ce coach-là, et ils garderont, même si, comme contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, ils se font sortir en Ligue des Champions, parce que moi, je pense qu'on ne passera pas en Ligue des Champions, puisqu'accessoirement, aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés, et il nous reste Manchester et le Bayern. Donc, faut peut-être pas rêver non plus, il y a un moment donné où il faut admettre qu'on a le droit, nous aussi, à une erreur. En l'espace de 12 ans, ce serait la seule et unique fois qu'on serait sorti en Ligue des Champions. Donc, c'est excusable et je pense que les Qataris l'ont compris et qu'il faut garder Luis Enrique, qu'ils garderont.
Julien, tu peux répondre.
Et j'entends que ça te blesse. Peut-être un peu.
Ça me blesse. Non, ça me blesse pas du tout.
j'aimerais être, avoir des certitudes comme toi tu les as sur le PSG. Si tu me dis qu'ils ont changé et que s'ils ne passent pas en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils ne se qualifient pas après cette première phase, alors que moi je pense qu'ils vont se qualifier, et je parlais d'une défaite éventuellement en huitième de finale, si tu me dis que malgré la défaite au premier tour, ils vont quand même garder Luis Enrique pour s'inscrire dans la durée, pourquoi pas? Aujourd'hui, j'en suis pas convaincu, mais ça me blesse pas du tout qu'on pense différemment, ou ça me blesse pas si le président le garde. C'est un peu le cadet de mes soucis, mais je suis pas sûr. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Je suis pas spécialiste et devin. S'ils arrivent à s'inscrire dans la durée, pourquoi pas? En revanche, une chose est sûre, c'est que même s'ils s'inscrivent dans la durée, il va falloir que Luis Enrique en Ligue des Champions fasse mieux que ses prédécesseurs, je pense, c'est tout.
Ok, merci Cyril d'avoir débattu avec nous dans les grandes gueules du sport. Je sens que Denis était très bouillant, ah ouais, très chaud sur le sujet.
Contrarié par Cyril, il veut garder Luis Enrique lui à tout prix. Donc.
Bah et alors pourquoi pas?
Mais c'est bien, mais
attends,
il fait du bon travail.
T'es le premier à brûler le PSG quand il change tous les ans ou tous les deux ans, et quand enfin le PSG veut le garder, non. Tu te dis bah non, mais c'est une mauvaise chose. Bah faut savoir.
Ah bon, parce qu'on joue bien au PSG en ce moment.
Bah on lit bien, oui.
Ouais. Oui. Cacahuète, c'est une girouette.
Non, c'est pas girouette. En fait. Moi, j'ai toujours pensé que voilà, il y a.
Ah, pas t'as toujours pensé qu'il fallait pas virer.
Luis Enrique,
il veut pas des stars. C'est les grands joueurs qui font gagner les grandes équipes. Lui, okay. Il veut gagner sans les grands joueurs. Moi, je veux bien. On verra.
Après, il a gagné avec Neymar, Luis Suarez.
Ah oui, il a gagné Neymar. Non, il a gagné surtout avec Messi et Neymar. Oui.
Bah oui,
il les a eu Neymar et Messi.
Donc il sait ce que c'est de gagner quand même.
Mais là, il en veut plus. Ben oui, bon.
Il y en aura peut-être d'autres, des Messi et des Neymar. Ok. Bon, merci Cyril d'avoir été avec nous. Merci mon cher Denis. Toujours un plaisir de te retrouver ce samedi matin.
Je reste pas, tu le sais.
Oui, pour les paris RMC.
C'est pas une blague.
Non, t'es libéré.
C'est pas une blague.
Et je t'aime très fort. Julien Benneteau, merci beaucoup.
Merci
Sarah Pouskowski, merci
bon
Christophe
samedi.
Également. Sarah, on se retrouve demain pour les grandes gueules du sport. Il y aura Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Cyril Linet. Soyez bien présents au rendez-vous à partir de 9h. Bon week-end donc, Christophe et Denis. Merci
bon
de nous avoir
fait
vibrer avec le 15 de France.
Essayez de faire une belle émission sans nous, ça va être dur quand même.
Promis, à partir de demain, on sera au rendez-vous 9h du matin. Les paris RMC dans quelques instants autour notamment de Lens, Marseille. Allez, à tout de suite.